comme chaque jour de l'été. Dans quelques instants, nous rejoindrons Edoui Plenel au studio 168 pour son ordre du jour. Et à 17h30, ce sera la première étape de France Culture sur le chemin des monastères à Citeaux, en Côte d'Or, avec le Pays d'Issy.
France Culture, le monde appartient à ceux qui l'écoutent.
15h30, le deuxième numéro du magazine de l'été de France Culture avec Edoui Plenel.
L'ordre du jour, dialogue sur l'air du temps. Edoui Plenel, Alain Jox.
Le moratoire sur les essais nucléaires décrété par François Mitterrand il y a 3 ans, a vécu, Jacques Chirac s'en expliquait hier soir au palais de l'Élysée.
Les essais nécessaires sont au nombre de 8. Ils interviendront à partir du mois de septembre et seront en tous les cas terminés fin mai 1987. J'insiste sur ce point parce que, vous savez, c'est à l'automne 96 que va arriver à terme et à signature, si j'ose dire, le traité international portant interdiction de tout essai nucléaire. Et la France a bien l'intention de signer sans réserve ce traité, mais pour ce faire, il fallait naturellement qu'elle soit en situation d'assurer à la fois la sécurité et la sûreté et la fiabilité de sa force de dissuasion et qu'elle ait aussi la possibilité, comme l'ont d'autres pays, de passer à la simulation. Donc après mûre réflexion, après large consultation, j'ai pris la décision, parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation, d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable.
Alain Jox, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à cet ordre du jour. Alors l'air du temps qui occupe tout ce magazine de l'été de France Culture, c'est aussi la guerre, pas loin de nous, en Yougoslavie. Alors j'ai choisi de vous inviter parce que je considère que vous êtes non pas l'un, mais le meilleur spécialiste français des questions de défense, des questions militaires, au sens un spécialiste qui pense tout seul, qui est indépendant des institutions. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur du groupe de sociologie de la défense. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui font référence sur toutes ces questions, qui sont en général des questions qu'on laisse à des spécialistes qui comptabilisent le nombre de fusées, etc. Vous avez une vraie pensée, je le dis très sincèrement, sur tous ces sujets, une pensée d'historien totalement ancrée dans ce va-et-vient entre le passé et le présent. Alors, on va parler de tout cela, de la bombe, de la Yougoslavie, de la guerre, de tout ce que les spécialistes nous disent, un peu de la vulgate des experts sur toutes ces questions. Mais avant, j'ai une question personnelle à vous poser. C'est au fond, dans votre parcours, pourquoi la chose militaire vous a-t-elle prise comme ça?
C'est arrivé un petit peu par hasard. J'étais à l'époque... je travaillais au centre d'études de politique étrangère, où le général Beaufre a fondé un institut d'études stratégiques. Et bien, j'ai travaillé avec le général Beaufre pendant plusieurs années. Il faut dire que, quand vous dites que je suis un spécialiste des questions militaires, c'est vrai qu'à un certain point seulement, je suis surtout un spécialiste de la pensée stratégique. Autrement dit, lorsqu'il s'agit d'organiser un coup de main d'un régiment pour déblayer une crête sur laquelle il pourrait y avoir, par exemple, des Serbes, je ne suis pas
compétent. Comme par hasard des Serbes.
Par hasard des Serbes. Je ne suis pas compétent, je dépends de l'opinion d'un colonel, et je suis très content du reste que ce soit sa spécialité. Et donc moi, ma spécialité, c'est plutôt une réflexion générale sur la guerre, sur les relations entre les objectifs de la guerre et les objectifs politiques, sur la responsabilité des États ou des non-États dans les déclenchements de la violence, et aussi sur le côté inexplicable souvent de la généralisation de la violence à toutes les échelles, c'est-à-dire depuis les individus jusqu'aux États, ces phénomènes sociaux qui sont très importants pour l'époque et puis depuis toujours.
Dans Voyage aux sources de la guerre, qui est paru en 91, l'année du début de la guerre en Yougoslavie, qui est un voyage qui remonte à Alexandre, à Marathon, à toutes les grandes batailles de l'Antiquité, à la fin, parce que je vous trouve un peu modeste, vous vous définissez comme une formule que j'aime beaucoup, comme un très, très métissé, très mélangé, comme un voltigeur. Hein, vous dites, vous parlez de cette liberté qui permet d'être à la fois historien, d'avoir le plaisir de l'enquête. On devient voltigeur, tirailleur, franc-tireur. Le sociologue reconquiert d'un coup tous les droits du chasseur, c'est-à-dire du journaliste, à ses risques et périls. Le voltigeur, le grenadier voltigeur, il a combien de temps de vie en temps de recherche ?
En temps de recherche ?
En temps de guerre.
Ah, on a toute la... Le temps ne compte pas, parce que c'est une question d'une... C'est une attitude mentale, c'est-à-dire pas... Vous avez... Moi, j'ai une formation d'historien de l'Antiquité. C'est assez curieux, mais bon, c'est aussi une partie de mon passé. Et donc, je suis spécialiste du Bas-Empire romain, qui est un endroit dont on ne sait pas grand-chose. Je dis un endroit exprès, hein, comme si c'était un terrain où il fallait envoyer un reporter. Et effectivement, il faut donc surtout se poser les questions. Parfois, des questions sans réponse sont plus intéressantes que des réponses sans questions. Et je pense que c'est une attitude très générale. Et à l'époque d'aujourd'hui, où tout a l'air bouleversé, où finalement les nations ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient, l'ONU, on ne sait même plus ce que c'est, on est dans une espèce de Moyen-Âge, eh bien, il reste que tous les hommes raisonnables ont le droit de se poser des questions. Et ces questions n'ont pas à être troubles, puisqu'elles doivent s'accrocher, me semble-t-il, à des préoccupations morales et politiques qui, elles, peuvent rester fidèles au poste.
La morale, justement, elle est présente dans un texte que republie Le Monde, qui paraît cet après-midi, qui est connu maintenant comme la Déclaration d'Avignon, qui est un texte qui a fait événement pendant le festival, qui est un texte évidemment sur la guerre en Yougoslavie, où il y a ce triptyque, la Déclaration d'Avignon que vous avez signée, et que non seulement ce triptyque dit il n'y a pas d'impuissance politique, il n'y a pas d'impuissance militaire, il n'y a pas d'impuissance morale. Alors, votre modestie dut-elle en souffrir ? Je crois que savoir que vous êtes allé à Avignon, que vous êtes mis devant un ordinateur, que en répondant à tous ceux qui se mobilisaient sur le sujet, vous avez participé à la rédaction de cette déclaration. Alors, comment va cet engagement entre... Il y a une guerre qui se fait, vous pensez la stratégie, vous pensez les conflits, vous pensez la guerre, et en même temps que vous le pensez, bah, vous courez de vos vacances à Avignon, vous êtes allé à Sarajevo, vous vous investissez de manière militante. Dans une période où l'engagement est moins à la mode qu'il y a 20 ans, comment se marie cette recherche, cette quête de savoir, de questions sans réponse parfois, et cet engagement et cette présence militante ?
Oui, vous savez, c'est... Bien sûr, on milite par conviction, mais aussi toujours par amour. C'est-à-dire qu'il y a une part... Donc, on ne peut pas militer pour tout. J'ai été longtemps au Chili. Je me suis beaucoup aussi remué au moment du coup d'État chilien. Parce que j'ai beaucoup d'amis chiliens qui ont coupé en morceaux dans les cellules de la DINA sous Pinochet. Pinochet est toujours là, d'ailleurs. Et ce sont des choses, donc, qui vous engagent. Maintenant, sur la Bosnie... J'ai connu la Yougoslavie depuis de très nombreuses années. Je connais bien les Balkans, la Grèce. Ce sont
quand
des
vous
pays
dites de très nombreuses années, je crois savoir que vous avez connu la Yougoslavie pour laquelle tous les anti-staliniens de l'après-guerre se sont mobilisés quand elle a rompu avec l'URSS.
Oui. C'est une histoire très, très ancienne. Mais
racontez-la nous.
À l'époque, après la déclaration du Cominform qui mettait Tito au banc des nations communistes comme traître et disons suppôt de l'impérialisme américain, il y a un certain nombre de gens qui, dans la jeunesse étudiante, se sont posés des questions, puisqu'on savait que c'était quand même le seul régime communiste qui s'était libéré tout seul et qui avait chassé les Allemands. Et donc, il y a eu des groupes de toutes sortes qui se sont donnés pour objectif d'aller voir de quoi avait l'air ce pays. Et d'ailleurs, à la tête de ces brigades, il y avait Claude Bourdet, qui, déjà à l'époque, était un homme à la fois de gauche et inclassable, et défenseur de toutes sortes de causes. Et donc, nous avons été là-bas, et c'était en 51. Donc, c'était au moment où, vraiment, on risquait de voir Staline envahir la Yougoslavie, au moment du réduit dans la guerre de Corée, où les Américains ont presque été jetés à la mer, un moment de grande tension de la guerre froide. Et j'ai connu ce pays à ce moment-là, j'ai appris quelques mots, j'ai compris aussi le côté tragique de l'histoire de cette guerre et de cette après-guerre, et en même temps l'extraordinaire capacité de ce peuple de se refaire une identité à partir de la résistance. Car la Yougoslavie a été une création d'une résistance anti-nazie. Naturellement, quand tout ça s'effondre, cela donne des éléments de dispersion, à la fois de l'identité nationale et du souvenir de la violence. Il ne reste plus que de la violence, alors que malgré tout, la Yougoslavie a été faite contre la violence nazie, en grande partie. Toute cette tragédie, je l'ai vécue d'une façon assez personnelle. Et ensuite, je me suis classé dans le camp de ceux qui voient que l'agresseur principal a été le régime serbe de Milošević, puis évidemment la République non reconnue par l'ONU de Palais de M. Karadžić, et qu'on pouvait classer, si je puis dire, dans le camp des victimes, les Bosniaques, et en particulier les Bosniaques qui étaient contre toute espèce de purification ethnique, qui étaient en faveur d'une République plurinationale. Alors, une fois fait ce constat, eh bien, je savais très bien pourquoi je pouvais effectivement prendre parti.
Qu'est-ce que vous répondez à des arguments qui sont très présents en France? Deux arguments auxquels je pense. Le premier, c'est la vieille amitié franco-serbe. Vous qui avez en tête l'histoire de tous ces conflits, elle naît en 14-18. Les premiers grands reportages d'Albert Londe sont sur le front serbe. Donc il y a cette image de l'amitié franco-serbe. Comment on s'en libère d'une certaine manière? Et deuxièmement, à ceux qui disent « Mais au fond, tout ça, c'est compliqué. On ne peut pas savoir. Il y a de la propagande partout. Bon, ça fait 4 ans que cette guerre dure et on ne pourrait toujours pas savoir. »
Je pense que la guerre de 14 est tout de même un peu loin de notre époque pour qu'on puisse fonder là-dessus une analyse politique perspicace. Donc, les Serbes se sont battus, mais pas seulement les Serbes. En général, ce sont plutôt les peuples montagnards qui ont mené la résistance contre les Allemands. C'était plus difficile de mener des guérillas, d'ailleurs, évidemment, dans les plaines et dans les villes. Et donc, ce sont beaucoup les Bosniaques, qu'ils soient serbes ou qu'ils soient croates ou qu'ils soient musulmans, qui ont fait de la résistance. Et les Monténégrins. Et c'est là que s'est situé le noyau les lieux de refuge de la résistance statiste, etc. Bon, alors, l'idée que les Serbes sont nos alliés ne peut survivre à l'épisode de la résistance qu'à partir du moment où on nie toute l'histoire de la résistance, qui justement n'était pas plus serbe qu'autre chose, c'était une internationale.
Tito lui-même étant croate, on l'oublie.
Tito était croate, il a pris soin toujours de lutter contre les nationalismes, au nom d'ailleurs de l'internationalisme prolétarien qui régnait à ce moment-là dans l'idéologie communiste. Donc il y avait une cohérence dans tout ça. Et je pense que l'histoire serbe est enterrée depuis longtemps. Quand une nouvelle affaire serbe surgit, de toute autre espèce, avec le régime de Milošević, qui était un régime issu de la nomenclature communiste, c'est-à-dire une sorte de mafia assez peu idéologique et très décomposée, qui tenait quand même les rênes du pouvoir en Yougoslavie. Et cette mafia du Parti communiste serbe, il l'a transformée en une mafia nationaliste à un moment donné, après avoir renié finalement l'antinationalisme du titisme. et cette donnée pour victime principale, les gens du Kosovo qui sont des Albanais. Tout ça est très ancien déjà, ça date pas de la, ça a commencé avant la guerre avec les Croates. Donc ce personnage est un personnage redoutable, on voit bien, puisqu'il surnage encore aujourd'hui avec une certaine machiavélisme, il a l'air d'un interlocuteur nécessaire du point de vue de la diplomatie. C'est une diplomatie qui va d'échec en échec d'ailleurs, mais enfin, il continue à avoir un certain prestige.
Monsieur Juppé disant à l'automne dernier, il faut jouer la carte Milosevic.
Oui, enfin, tout le monde a dit ça à un moment donné. Et ensuite, la carte Milosevic est-elle jouable? Et surtout, peut-on dire que si on joue la carte Milosevic, on n'est pas en train de proclamer la légitimité d'un pouvoir dont on sait qu'il est à l'origine de la purification ethnique, c'est-à-dire d'un pouvoir fondé sur le triomphe d'un criminel de guerre et qui a organisé les crimes contre l'humanité, qui sont présents dans tous les rapports de l'ONU et qu'on ne pourra pas enterrer. Et donc, faut-il prôner une diplomatie fondée sur un personnage qui est soumis déjà aux enquêtes du tribunal contre les crimes de guerre en Yougoslavie? C'est un problème. C'est un problème qui n'est pas terminé. Voilà. On verra bien comment ça tournera, mais je pense que les gouvernements français, comme les autres d'ailleurs, feraient bien quand même de méditer sur le fait que l'ONU a deux branches, une qui on peut appeler cynique et, disons, diplomatique ordinaire, qui serait le Conseil de sécurité et les États, et l'autre qui est créée d'ailleurs par le Conseil de sécurité, qui est le tribunal, qui lui fonctionne selon le droit international et un certain nombre de valeurs qui sont présentes dans la charte, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, partout, et qui sont impossible à transformer en autre chose, c'est-à-dire en autre chose que des principes.
Et quand vous qui avez été donc au début des années 50, presque en solidarité avec cette Yougoslavie que Staline avait exclu du paradis, de son paradis, entre guillemets, qui était de son enfer, quand vous lisez, par exemple, dans un livre récent où on fait parler pas mal François Mitterrand, dans l'année des adieux de Laura Adler, vous voyez cette phrase de François Mitterrand, alors que la Yougoslavie n'est plus, qui tenait tout ça, « J'aime les Serbes ». Il ne dit pas « J'aime les Yougoslaves », il dit « J'aime les Serbes ». Comment vous réagissez?
Ben, je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. Moi, j'aime les Yougoslaves. Je regrette qu'ils soient devenus une espèce d'enfer où, justement, on va être obligé de dire « j'aime les Serbes ». Il n'y avait pas de différence. D'abord, à Belgrade, il y a de tout. Enfin, il y avait des Serbes, des Croates, des tout ce qu'on veut. Et il y avait une nation yougoslave qui, finalement, était comme une nation unitaire en formation. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup certains Serbes, bien sûr. J'ai des amis dans Yougoslavie, dont certains sont Serbes, mais je ne vois pas comment on peut dire « j'aime les Serbes » aujourd'hui, encore moins d'ailleurs aujourd'hui qu'hier, puisque aujourd'hui, certains Serbes ou les régimes serbes sont en tout cas non pas aimables, mais plutôt abominables.
Parler de la guerre en Yougoslavie et de ses urgences, de cet ordre du jour qui nous contraint pendant toute cette semaine. Mais je voudrais revenir sur ce qui un peu introduisait cette émission, l'annonce par Jacques Chirac de la reprise des essais nucléaires après le moratoire décidé en 92 par François Mitterrand. François Mitterrand dont on sait aujourd'hui qu'il est quand même le chef d'État qui a ordonné le plus d'essais nucléaires pendant sa présidence. Alors, comment vous prenez, vous qui défendez, dans votre vision citoyenne, je dirais, de ces questions, vous défendez un peu l'école française par rapport à l'école anglo-saxonne, l'école américaine, c'est-à-dire l'idée d'une par rapport à l'idée d'un empire unique dans un monde unipolaire qui écraserait tout, vous défendez l'idée d'une certaine autonomie de la France, d'une autonomie stratégique de la France. Alors, l'annonce par Jacques Chirac de la reprise des essais, est-ce qu'elle vous paraît être la concrétisation de ça? La France agit seule, montre son autonomie stratégique, ou est-ce qu'au contraire, comme l'ont dit certains commentateurs, c'est une façon de penser en arrière et non pas en avant?
Oui, je pense que je ne vois pas de stratégie dans le nucléaire actuellement. Je ne dis pas que ce sera toujours comme ça, mais je pense que le nucléaire est devenu le vecteur de la stratégie à cause de la bipolarité russo-américaine. Et même l'autonomie française nucléaire, ou exprimée par la bombe nucléaire française, c'est une autonomie qui dépend très strictement de cette structure bipolaire. La bombe française sert à la fois à être autonome de la menace russe, mais aussi à être autonome de la protection américaine. De Gaulle en avait une vision tout à fait claire. Et donc, c'était évidemment une façon de maintenir une ingratitude à l'égard de l'ennemi et de l'ami. Et on peut appeler ça le fondement d'une autonomie stratégique, étant entendu qu'il n'était pas question, évidemment, de se faire des guerres nucléaires, mais plutôt d'empêcher toute espèce de guerre majeure grâce à cette menace d'explosion qui pourrait devenir incontrôlée. Il y avait une logique. Si moi, je n'ai jamais été particulièrement favorable à la logique de la dissuasion nucléaire, mais il faut dire que c'était une belle construction logique à l'époque de la bipolarité et que la France avait construit sa doctrine d'une façon impeccable sous l'égide de la pensée du général Poirier, du général Gallois, qui d'ailleurs, comme vous savez, sont tous les deux des colonels qui sont devenus généraux en passant à la retraite, ce qui les caractérise comme le général de Gaulle lui-même n'a jamais été autre chose qu'un colonel.
Vous voulez dire comme des dissidents au sein de l'institution militaire?
C'est-à-dire que souvent, les pensées originales militaires ne s'expriment pas au sommet de la hiérarchie.
C'est pas les plus galonnés qui pensent le plus vif?
Pas forcément, non. Ouais. Enfin, ils peuvent devenir ensuite généraux, mais en général, quand on a trop d'idées, on n'y arrive pas. Par contre, on arrive à avoir des idées. Donc vous avez eu cette production d'idées très riche au sein de la production d'idées qu'était la réflexion de la stratégie nucléaire. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Et à mon avis, je ne suis pas en désaccord, je veux dire, avec l'idée du président de la République, François Mitterrand, qu'on aurait pu se passer de reprendre les essais. Pourquoi? Parce que reprendre les essais, le descriptif technique que nous donne le président Chirac dans le passage que vous avez cité au début est tout à fait exact. Mais la seule question, c'est de savoir pourquoi aurions-nous, diable, besoin de passer à la simulation dans l'année qui vient, ou aux capacités de passage à la simulation. Et c'est une description qui est purement ce que j'appelle technostratégique, c'est-à-dire en fait, il n'y a là-dedans aucune stratégie, il n'y a aucune visée concernant une configuration d'ennemis dans le monde contemporain, c'est simplement la dynamique du perfectionnement d'un système qui a commencé à se perfectionner à l'époque de la bipolarité et qui continue. C'est comme s'il y avait un instinct presque d'insecte, n'est-ce pas, qui anime nos polytechniciens et les pousse dans les services compétents, etc., à poursuivre un projet de perfectionnement, sans se demander s'il n'y aurait peut-être pas besoin, je ne sais pas moi, d'avoir des hélicoptères lourds au lieu d'avoir besoin de les mendier aux Américains.
Qu'on pourrait envoyer à Gorage D. Ou...
Voilà. Et donc, il y a une espèce de décalage entre cette urgence d'acquérir ce savoir de la simulation mathématique des explosions nucléaires. C'est pas pour pouvoir faire des essais sans faire d'essais. Enfin, c'est ça l'idée. Pour pouvoir perfectionner des bombes de plus en plus petites, etc. Tout ça, on ne sait pas très bien dans quel objectif politico-militaire, alors qu'il y a des véritables problèmes de remaniement de notre pensée militaire non nucléaire et que le monde contemporain est plutôt, semble-t-il, organisée autour d'une violence non nucléaire et même assez petite, mais néanmoins extrêmement dangereuse et politique.
Si je vous comprends bien, Jacques Chirac serait en fait prisonnier d'une technostructure, en l'occurrence, comme il le disait, qu'il avait beaucoup brocardé durant sa campagne électorale. Mais cette technostructure, c'est aussi une façon de penser la violence, de penser la guerre, de penser la politique, comment se comportent les États, hors de toute réflexion éthique. Au début de votre voyage aux sources de la guerre, vous avez une sorte d'introduction méthodologique et vous parlez de cette civilisation de l'objet militaire qui nous a envahis et donc de la façon dont vous l'écrivez comme ça. C'est un phénomène jamais vu à cette échelle, cette présence du militaire, dans toute l'histoire de l'humanité. Et on ne peut pas tenter d'en donner une description banalisée. Et vous écrivez ces phrases qu'il faut prononcer dans ce climat de reprise des essais français. Le sort ainsi promis à notre planète est parfaitement analysable par l'historien, l'économiste, l'anthropologue, le biologiste et le physicien, au moyen de quelques projections vraisemblables. C'est la catastrophe probable à terme. Ce n'est pas forcément la guerre nucléaire qui nous menace, mais une dégradation plus quotidienne. Une horlogerie fatale paraît entraîner vers leur ruine les deux empires. En l'occurrence, à l'époque où vous écrivez, il y en a un qui est en train de sombrer, c'est le soviétique, et l'américain, et surtout leur tiers-monde respectif, peut-être parmi lesquels l'Europe.
Oui, mais j'avais écrit ça au moment où finalement... la bipolarité n'était pas complètement terminée, la Russie s'était pas complètement effondrée, disons, dans son propre collapsus. Et on peut le dire quand même, un diagnostic fondé sur le début de dégradation de l'Union soviétique qui n'a pas supporté la poursuite de la course aux armements comme un des éléments de déstabilisation totale de son économie, parce que elle était tirée en avant dans des zones de haute technicité pour suivre la course aux armements, et ces zones de haute technicité étaient décalées, décrochées de l'ensemble de l'économie russe telle qu'elle était, et donc vous n'aviez aucune retombée de ce secteur militaire performant au niveau de l'économie ordinaire. Voilà, c'est ça qui fait que tout l'effort qualitatif que fournissent les Russes à l'époque, finalement, ne sert absolument pas au développement, mais aboutit au sous-développement.
Est-ce que cette technostructure française, ce lobby autour du nucléaire, ne nous entraîne pas dans une spirale, elle aussi, qui peut...
Bon, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas un pays comme la Russie, dans lequel l'effort de technicité a décollé celui de l'armement aurait trop décollé par rapport à celui de la production civile. Il y a une homogénéisation des techniques de pointe au niveau des techniques de production comme des techniques de destruction, si j'ose dire. Les États-Unis, qui ont fait un effort considérable, sont aussi dans une situation difficile. La France, un peu également. Mais ce n'est pas du même ordre que ce qui s'est passé en Russie. Et s'il y a des effets pervers, si vous voulez, de cet entraînement vers la militarisation de l'économie, c'est plutôt parce que on pourrait perdre de vue que les projets techniques ont la valeur presque d'un parti politique. Je m'explique. Vous prenez, il faut contrôler quand même les effets politiques.
Ça.
Si vous avez un système dans lequel s'investissent des talents, des projets modernes, techniques, nombreux, et que ce projet-là a un poids en soi, n'est-ce pas, il peut entraîner la société vers des réalisations qui sont socialement tout à fait inutiles, ou même qui soient politiquement tout à fait inutiles. À mon avis, c'est ce qui se passe en partie en ce moment avec... cette espèce d'entraînement, peut-être hérité de cette inertie qui continue à nous entraîner vers le perfectionnement de l'armement nucléaire. Bon, si demain l'Union soviétique redevient, la Russie redevient un État, tsariste, fasciste, redoutable et conquérant, le fait d'avoir une arme nucléaire redeviendra peut-être d'actualité, mais elle n'aura pas non plus... il n'y aura pas d'effet de surprise, on aura le temps de se retourner. Et de toute façon, la dissuasion nucléaire ne s'accompagne pas du tout forcément d'un extraordinaire raffinement dans les têtes nucléaires. Ce qui est important, c'est qu'on puisse les acheminer pour menacer de s'en servir sans avoir à s'en servir. Alors, dans ce domaine, eh ben, il n'y a peut-être plus besoin de ce perfectionnement fou qui était devenu la loi du genre entre les États-Unis et la Russie dans leur course bipolaire, n'est-ce pas ? C'était ce moment-là qui continue à nous animer. Bon, enfin, voilà, je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Je pense que le débat sur les essais nucléaires, du point de vue des écologistes, c'est une chose, mais, à mon avis, le débat sur la rationalité stratégique serait plus important politiquement.
Vous voulez dire que le débat sur la rationalité stratégique, il est aussi critique de cette décision. Il peut être aussi critique
de cette
décision.
Oui, je pense qu'il est critique, surtout qu'on ne peut pas tout faire. Alors, vous comprenez, on est en train de réduire les budgets militaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose en temps de paix. Mais quand même, il y a aussi le fait qu'on envoie des casques bleus un peu partout, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose si on a les moyens pour que ça aboutisse à des succès. Mais si on envoie des casques bleus qui n'aboutissent pas à des succès et qui ne peuvent pas agir seuls parce que finalement on a besoin des autres, y compris même des Américains, alors l'autonomie stratégique de la France dans ces histoires-là est très érodée. C'est pourquoi si on investit dans des questions militaires, il faut pouvoir investir rationnellement dans l'endroit où on en a le plus besoin. En ce moment, ce n'est évidemment pas les gesticulations nucléaires qui sont à la mode. Ce sont ce que j'appelle des expéditions humanitaires, des prises de responsabilité dans des zones troubles. Et il faut pouvoir acquérir des succès dans ce domaine du point de vue de l'idéologie de la République, c'est-à-dire défendre des républiques qui ne soient pas racistes et sadiques, et aboutir à des succès. Si on n'aboutit à aucun succès, c'est aussi parce qu'on n'a pas les moyens, peut-être. Et donc, il faut penser... c'est qu'ils tiennent compte des vrais dangers de conflit.
Est-ce que le nucléaire, finalement, ne nous empêche pas, il n'y a pas une sorte de censure créée par le nucléaire qui nous empêche de penser la guerre telle qu'elle se présente à nous puisque vous dites tout à l'heure, nous sommes en temps de paix, peut-être finalement, sommes-nous sans le savoir en temps de guerre, c'est-à-dire que la guerre n'est pas déclarée, mais elle n'est pas loin de nous. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas une certaine schizophrénie actuelle de l'attitude française, illustrée par le contraste entre les deux attitudes de Jacques Chirac, une attitude anté-gaulienne, une posture gaulienne sur les essais nucléaires, et puis, quelles que soient les déclarations, une certaine impuissance par rapport à la guerre qui s'offre à nous, à ce que vous dites, les positions républicaines, un régime raciste, une violation de tous nos principes, où notre impuissance est marquée. Vous avez cette phrase qui fait totalement écho à ça dans votre tout dernier livre qui a été réédité récemment chez Payot. Vous dites, fini le bon goût des comptabilités de la terreur, le nombre de têtes nucléaires, tout ça a l'air très propre. Nous rentrons dans l'horreur des massacres et des camps. Et c'est cela qu'il faut maîtriser.
Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, donc, pour pouvoir maîtriser ça, il faut non seulement des troupes et des moyens d'intervention classiques, mais il faut aussi une réflexion très acérée sur notre doctrine stratégique et sur la question de la relation avec les alliances et avec les institutions comme l'ONU. Cette réflexion critique, c'est peut-être tout ce qui reste, d'ailleurs, de l'autonomie politique d'un pays. Vous savez, l'autonomie politique d'un pays comme la France, elle est très érodée par l'interdépendance économique au niveau de l'Europe. Et un des seuls points sur lequel il n'y a pas de domination par l'interdépendance économique, c'est les questions de défense. Parce que ce qui est en jeu ne correspond pas strictement à des intérêts au sens commercial ou économique, puisque ce qui est en jeu, c'est la menace de mort. Or, la menace de mort, et surtout mettre la vie des citoyens en jeu, ça ne peut pas procéder d'un simple calcul économique. Donc voilà un lieu, et ça ne peut pas non plus procéder d'une simple combinaison entre des intérêts économiques. Il faut que le pays sente que ses valeurs sont en cause. Et c'est à ce moment-là qu'on peut agir d'une façon autonome sur le plan militaire. Même si, sur le plan économique, ça ne marche pas, ou même si ça heurte les intérêts allemands ou américains. Alors, comme c'est un des seuls lieux où se reproduit quelque chose de l'autonomie politique d'un pays, il faut beaucoup y réfléchir. Et je pense que cette réflexion a été... abandonné au cours du dernier septennat, que c'est dommage que ce soit peut-être un président de droite qui la reprenne, s'il la reprend, ce que nous allons voir, que c'est peut-être plus dans la vocation ou la tradition gaulliste de réfléchir à ces choses-là, mais on a vraiment l'occasion d'avoir un diagnostic, parce que la guerre de Bosnie, ce n'est pas une chose avec laquelle on va pouvoir tricher. Et par conséquent, c'est un gros effort auquel nous sommes conviés.
When you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, the magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering like faded flowers. Life can't mean anything when your lover.
Alain Joc, vous disiez à l'instant, c'est une autre affaire, enfin c'est une autre urgence de penser la Bosnie au lieu de s'enfermer dans un schéma automatique qui est celui des essais nucléaires. Alors moi je voudrais qu'on se livre rapidement en plusieurs questions à une sorte de contre-expertise. Nous sommes prisonniers, nous les journalistes, les citoyens, d'un discours qu'on entend partout, que les diplomates, les généraux, à tous les niveaux de l'État nous tiennent. C'est un refrain presque, hein, un gimmick. Il n'y a pas de solution militaire en Bosnie. Alors, il n'y a vraiment pas de solution militaire en Bosnie ?
Oui, moi, ça, je dois dire que ça m'amuse un peu, cette façon de parler. Il n'y a jamais de solution militaire à une guerre. C'est-à-dire que la solution est toujours politique. Et donc, le problème est très, très mal posé. Il n'y a pas de solution militaire à une guerre. Là, ce qu'on appelle la solution militaire, c'est éventuellement la victoire. Mais la victoire elle-même, c'est le moment où le vaincu se met à discuter sérieusement et des propositions de paix. Quand il n'y a pas de victoire, effectivement, il est très difficile d'aboutir à une négociation sérieuse. Alors, on a l'air d'avoir complètement oublié, tout simplement, cette logique du passage de la violence à la négociation. Et c'est extrêmement trouble, parce que ça fait 3 ans que ça dure, donc les gens ont pris l'habitude d'écouter des choses de ce genre, en se disant « Ah ben oui, c'est bien vrai », comme si c'était un proverbe qui nous venait du néolithique. En vérité, il n'y a pas de solution diplomatique sans effort militaire, quand il y a des combats. Donc il faut qu'il y ait une forme militaire d'affrontement et il doit y avoir une forme diplomatique de négociation. Ce sont deux logiques qui sont différentes. Nous sommes enfermés en tant que casque bleu ou nation casque bleu, si je dirais, dans une logique absolument invivable politiquement. Parce que en tant que nation, on ne peut pas faire ça. C'est uniquement l'ONU qui peut faire ça, qui n'est rien, qui est une espèce de non-souveraineté. Donc, un casque bleu ne doit avoir ni action militaire, ni action politique. Et les diplomates jouent avec les casques bleus comme si c'était des éléments de diplomatie. C'est vrai tant que les missions des casques bleus sont, d'une façon absurde d'ailleurs, cantonnées dans le cadre du chapitre 6 de la charte qui prévoit le maintien de la paix. Mais ça, c'est la situation juridique. Les casques bleus sont censés maintenir la paix. Donc, il est censé y avoir une paix en Yougoslavie. Tout ça, évidemment, est une plaisanterie. Et c'est une plaisanterie grotesque. Il y a une guerre en Yougoslavie. Les casques bleus sont pris entre deux feux. Ils sont paralysés parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de dire oui à tout le monde. Sinon, on les prend en otage ou on leur tire dessus. Et les pays qui ont des casques bleus sont donc eux-mêmes otages de cette situation. Alors, à partir de ce moment-là, normalement, si les nations avaient voulu aboutir à une solution politique, il aurait fallu qu'elles passent par l'action militaire qu'on lance normalement contre les pays agresseurs au titre du chapitre 7 de la charte.
Et si je vous comprends bien, Alain Jocque, le problème, c'est pas est-ce qu'il y a une solution militaire, c'est d'abord quel but politique on se fixe. Est-ce que l'occasion manquée, de ce point de vue, n'a pas été... Il y en a eu d'autres avant, mais elle était tellement flagrante, celle-là, la prise en otage des casques bleus. Où il était facile de dire, voilà, les Serbes, la République autoproclamée là, des Serbes de Bosnie est se met au banc des nations.
Oui mais si vous voulez, ça a été la dernière des occasions, bon, sur laquelle, comme le scandale était patent, on s'est dit, là, ça va peut-être changer. Et il faut dire que quelque chose a changé, malgré tout. D'une part, il est assez normal que rien ne change tant qu'on n'obtient pas la libération des otages. On ne va pas s'amuser à peut-être provoquer leur massacre si on peut l'éviter. Et donc, le vrai problème commence à partir du moment où il n'y a plus un seul casque bleu otage. Et on s'est dit, à ce moment-là, là, ça va changer. Et puis, on est retombé dans une sorte d'inertie. À mon avis, les Serbes ont regardé ce qui se passait. Ils se sont vus qu'il ne se passait rien. Et à ce moment-là, est née l'idée incroyable, mais vraie, de violer franchement et ouvertement la résolution de l'ONU et d'expulser Zepa et Srebrenica en se disant ils vont rien faire et en constatant qu'en effet, on ne faisait rien. Alors c'est là que se pose un problème. Du côté français, le président Chirac a eu le mérite d'appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire, c'est lui le premier qui a parlé de barbarie serbe, il a parlé d'agression, il a parlé de violation, etc. Et on avait l'impression qu'il était clair maintenant pour l'opinion française et par conséquent, quelque part, pour la politique du gouvernement, que l'adversaire, l'agresseur, était désigné et qu'on allait pouvoir donc envisager enfin une solution politique, c'est-à-dire une solution qui ne mette pas sur le même plan l'agresseur et l'agressé.
La victime et le bourreau.
Et la victime et le bourreau, parce que sinon, il ne s'agit pas d'une solution politique. Il s'agit justement d'une solution militaire. Si vous mettez sur le même plan le loup et l'agneau, c'est une solution militaire. Hein. Si vous dites, il y a un loup et il y a un agneau, et nous faisons une intervention pour casser la domination de la force, ça s'appelle une intervention politique. Elle peut être en force, mais enfin, en tout cas, c'est là qu'il y a de la politique. Ce n'est pas quand c'est simplement le loup qui l'emporte sur l'agneau. Quand le loup l'emporte sur l'agneau, c'est ce qu'on appelle une solution militaire. Or, on a facilité sans arrêt la solution militaire des Serbes. Voilà. Alors, une fois déblayé ce terrain, et je pourrais le redire 20 fois, mais quand même, finalement, ça me paraît assez clair. Moi-même, je suis impressionné par ma clarté quand je m'écoute. Et le problème qu'on a maintenant, c'est de se dire comment passer à une solution politique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans le langage du gouvernement français, mais cette ambiguïté, elle est peut-être aussi dans la situation. N'empêche qu'il va falloir que ça s'éclaircisse. Par exemple, on a fait venir des troupes en quantité, et dans leur armement est bien supérieur, et elles ont des capacités, pas seulement de défense, mais au fond, d'offense défensive assez considérables. Ces troupes sont-elles destinées à être utilisées pour changer la configuration des forces sur le terrain, pour montrer aux Serbes que le loup, il n'y a pas que eux comme loup, il y a des loups qui sont même encore plus gros, et que par conséquent, il faut aboutir à une solution politique? Ou bien est-ce que c'est une gesticulation qui permettra tout simplement de nouveau au loup de continuer à manger l'agneau? Bon, cette question-là va être posée dans les semaines qui viennent. C'est une des questions, d'ailleurs, qui est posée, je crois, par le collectif de la déclaration d'Avignon, auquel j'ai contribué un peu, et qui s'est terminée sur une proclamation d'une grève de la faim, qui est courageusement entreprise par certains comédiens, qui veulent prouver, en mettant leur corps en jeu, que le temps qui s'écoule est un temps de torture pour trop de gens, pour que la simple temporalité diplomatique soit prise en compte. Il va falloir reprendre en main un certain nombre de définitions des adversaires et prendre parti dans cette guerre d'une manière ou d'une autre pour aboutir à une solution politique. Alors, c'est ça le problème. Maintenant, on va pas. Quand le ministre de la Défense nous dit qu'il va peut-être falloir réviser les conditions du plan de partage prévu par le groupe de contact, est-ce qu'il nous dit on s'approche de la négociation et les relations de force étant nouvelles sur le terrain à cause de la présence de cette force en casque kaki qui n'a encore rien fait mais qui pèse sur les choses. Est-ce que, étant donné ça, cette présence nouvelle des troupes françaises et anglaises, on peut obtenir un accord politique plus aisément? Ou est-ce que ça veut dire, étant donné que Srebrenica et Zepa ont été abandonnés aux Serbes, ils vont peut-être maintenant se montrer raisonnables, comme Hitler après les Sudètes, et on va enfin arriver à un accord correct de Munich? La question est ambiguë. Et il faut voir où nous allons aller, parce qu'il est très possible que ces deux choses-là soient présentes, en quelque sorte, dans les possibilités de l'avenir. Moi, je souhaite, effectivement, que les troupes françaises qui sont envoyées là-bas et qui ont subi des pertes soient utilisées pour accélérer une solution politique plus juste que ce qui serait arrivé si on ne les avait pas envoyées. Autrement dit, si on n'avait pas envoyé ces troupes, on aurait eu sans doute la chute de Gorazde, hein, qui est annoncée d'ailleurs et exigée même par M. Karadzic, et on aurait eu aussi le siège de Tuzla, l'enclave de Bihać aurait peut-être été prise parce qu'on n'aurait pas pu faire diversion au sens où les Croates ont pu finalement intervenir du côté de Bihać sans être trop inquiété par les troupes serbes de Karadzic qui sont occupées à faire face à ce potentiel danger que sont les troupes de la force de réaction rapide. Tout ça est là, présent, et nous devons le surveiller et opiner sur cette question.
Oui. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un scénario plus sinistre, enfin avec moins d'espérance, puisque vous disiez le temps passe, hein, ce n'est pas le temps diplomatique, mais il passe depuis plus de 3 ans à Sarajevo et dans les autres villes bosniaques. Est-ce que derrière ce changement de discours, que tout le monde a salué, mais qui n'est pas suivi d'effets, il y a cette force de réaction rapide, dont on a dit qu'elle pouvait aussi bien servir à organiser un départ, on l'a dit. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une partie, ça c'est un autre scénario, de gesticulation, je dirais d'une façon de préparer l'opinion, regardez, on a désigné l'adversaire, on a fait tous les efforts, les alliés ne suivent pas, donc il ne reste qu'une seule chose à faire, se retirer.
Oui. Alors, c'est possible. Moi, il y a une chose qui me fait penser que c'est difficile à imaginer. C'est parce que tout le monde sait maintenant qu'en effet, il suffit de troupes en nombre assez limité pour impressionner les Serbes. Lorsque le président Chirac, au moment de la chute de Srebrenica, a dit « Je suis prêt à reconquérir l'enclave de Srebrenica »,
Le 11 juillet.
Il pensait certes envoyer des troupes, mais pas beaucoup plus que ce qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il sait que Srebrenica a été prise par 1500 hommes de la brigade présidentielle de M. Karadzic et que les troupes réellement opérationnelles ne sont pas très nombreuses du côté des Serbes de Palais. Ils ont des lignes très étirées, des milices qui gardent des fronts. Mais en fait, leurs opérations offensives se font avec une poignée d'hommes toujours les mêmes. La même chose pour Zepa. Donc, Jacques Chirac nous a rendu ce service. C'est